la lumière ni l'obscurité ne sont là où on le prétend. La bibliothèque du peuple, lecture sur place, prêt gratuit, anonyme et par correspondance. Info sur www.libertaire.noblogs.org.
Donc nous sommes ensemble depuis la Big Biennale. Le dernier jour de la Big Biennale, nous sommes dimanche 18 juin, ici à Genève, depuis la Big Biennale de l'art contemporain indépendant, à l'espace Kugler, que l'on remercie à nouveau de nous accueillir si gentiment. Il y a en ce moment un concert à l'intérieur du container de l'espace Kugler, un concert de Parasites sans S, un trio musical tout à fait singulier que l'on a entendu tout à l'heure à la radio. Et nous accueillons maintenant des personnes du festival Refugees Cultural Festival, le festival culturel des réfugiés, que Emmanuel, bienvenue à toi Emmanuel, que tu as gentiment proposé à la radio, et on t'en est gré d'ailleurs. Alors je vais faire un tour de table juste pour les présenter rapidement, et puis peut-être qu'Emmanuel te prendra la parole pour nous expliquer un petit peu la globalité de ce projet, et ensuite évidemment tout le monde prendra la parole pour nous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de ce festival. Alors nous avons autour de nous Dan qui est en train de prendre une photo, Aptom, bienvenue à toi, bonjour.
Bonjour.
Et puis Sylvie, bonjour à toi, bienvenue également.
Bonjour.
Sylvie, toi tu es la cofondatrice, hein, si j'ai bien compris,
oui,
du festival.
Oui, avec voilà. Dan, oui, merci.
Avec Dan, très bien. Alors, c'est un festival qui est tout à fait nouveau, puisque c'est la première édition. Il se situe en ce moment même en Grotte, donc il a commencé il y a de cela 2 jours. C'était, ouais, c'est ça.
Hier, il a commencé hier.
Il a commencé hier et il continue jusqu'au 22, donc jusqu'à mercredi prochain, juste derrière la gare Cornavin à Genève aux Grottes. Emmanuel, comment as-tu découvert ce festival ?
J'ai découvert ce festival comme tout le monde, je pense, ou la plupart des jeunes voient par les réseaux sociaux. Il y a eu une grande promotion, une grande communication autour de ce festival qui est soutenu par beaucoup d'institutions, notamment le canton de Genève, même la Confédération suisse. Je pense que c'est une initiative vraiment originale et nouvelle, et je suis curieux de savoir sur quoi ça va aboutir. Donc ça a commencé hier, ça a fini le 22. C'est une initiative culturelle, et je pense que Dan et Sylvie qui sont là avec nous pourront mieux nous expliquer. Moi j'aimerais juste un peu en introduction expliquer pourquoi c'est important pour moi que ça se fasse. On a beaucoup lutté ces derniers mois, ces dernières semaines à Genève pour un certain nombre de sujets vraiment importants en lien avec les réfugiés et les sans-papiers en ville et dans le canton. Il y a eu toute la mobilisation pour sortir les requérants d'asile des abris PC, mobilisation qui continue. On a promis d'avoir à peu près 2000 lits en plus en surface pour les requérants d'asile sur le canton. L'hospice général a promis de se bouger pour qu'il y ait vraiment un changement à ce niveau-là. Il y a une énorme mobilisation contre la multiplication des renvois dits Dublin. Il y a beaucoup de familles qui ont été séparées dans les communes, à Vernier, à Bernay, à Vuzy, en ville de Genève. Il y a eu des mobilisations qui ont été beaucoup suivies, une pétition qui va être remise en novembre au Palais fédéral contre ces renvois Dublin. Et puis il y a eu beaucoup de progrès au niveau des sans-papiers, de la politique à l'égard des sans-papiers, notamment Pierre Maudet qui a pris une initiative courageuse avec l'opération Papyrus, avec des nouveaux critères qui des critères assouplis qui permettront à un certain nombre, même un nombre important de sans-papiers d'être régularisés, ce qu'on attendait depuis 2005. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent, mais sur le plan de la politique pour les réfugiés, je dirais qu'on est un petit peu dans une situation de stagnation, voire même de retour en arrière. Il y a ces renvois qu'on dénonce, toute la gauche, les offres d'entraide, les syndicats qui se multiplient. Il y a ces conditions d'hébergement qui sont toujours problématique, même si on a ouvert un nouveau centre pour les requérants mineurs dans la compagnie à la Fraille. Et puis, bien sûr, il y a toute une partie de la population, et là j'en viens vraiment au sujet qui nous préoccupe, il y a toute une partie de la population qui est sensibilisée activement à la question de la condition de vie des réfugiés à Genève, de leurs conditions juridiques et politiques. cette population est active via les associations, via les œuvres d'entraide, via les partis politiques, via les associations qui se créent dans les communes pour permettre la rencontre avec les réfugiés. Il y a une nouvelle association qui a été créée récemment à Verrier, il y en a une à Carouge depuis en tout cas 18 mois, à Aunay, il y a aussi des mobilisations qui deviennent de plus en plus structurées. Par contre, il n'y a pas vraiment un espace en dehors de ces milieux déjà sensibilisés, pour ainsi dire militants, où on offre la possibilité aux Genevois de rencontrer des réfugiés et puis de être mis en relation avec ce qui constitue ce qui constituerait leur culture. Alors bien sûr, la culture, il y a des définitions extrêmement larges de ce que ça peut être la culture. La culture ne se réduit pas à des traits spécifiques. Ça va du comportement, des habitudes, au goût spécifique. Là, il y a tout un projet en lien avec la nourriture. Ça peut paraître quelque chose d'attendu ou de déjà connu, mais je pense qu'il y a une vraie recherche pour faire se rencontrer des nouvelles populations, toutes ces populations réfugiées à Genève, et puis la population genevoise, expatriée et non expatriée, qui cherche à découvrir et à interagir avec les réfugiés. Donc c'est un espace que Dan et Sylvie pourront beaucoup mieux décrire que moi, vu que ce sont les organisateurs. Mais en tout cas, c'est un espace prometteur puisque il y a un programme extrêmement chargé avec des ateliers, avec des débats, avec des expositions, avec des films, avec des ateliers culinaires. Je pense que c'est pas un hasard que ça suscite un tel engouement et que ça soit soutenu par des organisations qui sont déjà engagées dans ce domaine-là.
Ok, alors on le rappelle, Festival culturel des réfugiés, il y a un site internet dont je vais d'ores et déjà annoncer l'adresse, c'est www.refugiculturalfestival.ch, réfugié donc avec deux E, et une adresse de contact qui est info@refugiculturalfestival.ch. Ça c'était pour annoncer déjà la couleur. Alors effectivement, comme vient de le dire Emmanuel, j'imagine que ça vient d'une analyse et du constat d'une situation qui vous a conduit à créer ce festival. Dites-nous, Dan et Sylvie, puisque vous en êtes les cofondateurs ensemble, qu'est-ce qui vous a amené à passer le cap de dire nous avons observé une situation, mais maintenant on a envie vraiment de faire ce travail-là, parce que c'est, j'imagine, un travail de longue haleine.
Oui, alors en fait, on est parti d'un constat que il y a beaucoup de choses qui se font, mais comme disait Emmanuel, il n'y a pas forcément de lieu ou d'espace ou de temps de rencontre avec les autres populations. Et moi, ce que j'ai aussi observé, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent, mais qui ne partagent pas forcément les résultats ou les choses qui marchent bien, les choses qui ne marchent pas. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de gens dans des associations qui sont bénévoles, qui font un travail de fou et qui sont fatigués je vais y arriver.
Prends ton temps, on est entre nous, il faut savoir qu'on est dans des conditions compliquées, on est à la Big Biennale, ça veut dire que juste à côté de nous, il y a une performance actuellement qui est à court, donc on se meut dans du bruit et tout, donc ouais. C'est tout à fait normal, et en plus, il fait chaud.
En plus, il fait chaud, et on a une grosse journée hier, donc on est un peu fatigué.
Bien entendu, voilà. Mais c'est bien aussi que les gens sachent, qui nous écoutent, que le travail fait qu'on est un petit peu fatigué, puis qu'on ne peut pas toujours être au top, et voilà.
En fait... Donc il y avait ce constat des associations qui ne travaillent pas forcément ensemble ou qui n'ont pas non plus d'espace pour faire une action collective vraiment grande. Et puis il y a aussi effectivement ce constat qu'on est dans une petite ville mais les gens ne se rencontrent pas. Donc chacun a son groupe d'amis ou sa communauté ou son club de sport, mais on ne sort pas vraiment de notre zone de confort et on n'arrive pas à se croiser. Et moi, pour avoir travaillé aussi bien avec des expatriés que ce qu'on appelle des réfugiés ou des migrants, en fait, je me rends compte qu'il y a quand même des problématiques similaires. Il y a déjà la barrière de la langue et puis aussi effectivement au niveau culturel, certaines différences culturelles, difficultés d'adaptation et de rencontrer simplement des Genevois. Donc... on avait envie de faire quelque chose aussi de festif. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a aussi beaucoup de langage un peu négatif sur l'autre, sur les étrangers. Puis nous, on avait envie vraiment d'envoyer un message de positif sur la richesse et la chance en fait, qu'on a d'habiter à Genève. Parce qu'on a à la fois effectivement des locaux, des Suisses, on a des expats, on a des organisations internationales et on a des réfugiés. Donc on a une multiculturalité qui est extraordinaire. Et qu'on peut partager en fait, qu'on voulait vraiment créer un espace de partage. Et aussi envoyer le message qu'on peut co-créer ensemble, parce qu'on est quand même, donc Dan et moi on est les fondateurs, mais on travaille avec beaucoup d'associations, beaucoup d'individus, dont des réfugiés et des requérants d'asile qui sont partie prenante de ce festival dans l'organisation et la co-création de toutes les activités. Et qu'on pouvait vraiment s'amuser ensemble, passer des bons moments ensemble, se découvrir à travers la culture, le sport, le théâtre, l'art, les jeux, la fête, quoi. Voilà.
D'accord. Alors Dan, dis-moi, selon toi, comment est-ce que vous avez communiqué à ces personnes réfugiées qui font partie des personnes qui viennent travailler, qui viennent proposer ces activités? Je veux dire que, est-ce que c'est pas compliqué de dire, venez, nous allons nous amuser ensemble à des personnes dont, effectivement, on sait que les trajectoires sont délicates, compliquées et souvent douloureuses?
Pas du tout. Je pense... Le premier problème, ce n'est pas l'espace pour collaborer. Il y a beaucoup de murs qui ne font pas l'opportunité pour les gens de rencontrer, pour faire quelque chose ensemble. Il y a une culture d'ici, de très grandes barrières pour tous les gens. C'est un problème pas juste pour le Suisse, juste pour l'expat, juste pour le migrant. Pas juste pour le réfugié ou le recourant ici, c'est un problème de Genève. Il y a une étude, il y a 8 ans, une étude qui a dit que Genève dans la Suisse, c'est la société avec le sang des communautés moins de tout le pays. L'étude, l'indicateur pour l'étude, c'était combien de heures tu es bénévole, tu connais ton voisin bien, des choses comme ça. C'est de moi, tout le Suisse.
Donc ça, c'est vraiment un problème de société.
Oui, c'est vraiment. So, l'opportunité pour changer la société d'ici, c'est pour commencer le dialogue entre les gens.
Oui, tout à fait.
La puissance, maintenant, c'est un déficit de la culture, la richesse de la culture. À ce moment, c'est un déficit de la société. Dans la société qui marche bien, la richesse, c'est la compétence, c'est une chose qui augmente les possibilités pour faire quelque chose.
Très bien. Alors justement, Sylvie, que nous dis-tu au travers de l'organisation du festival, des partenaires qui se sont assez facilement joints à l'aventure, ou est-ce que tu as plutôt trouvé des résistances autour de toi quand il a fallu trouver effectivement les différents espaces, qu'il a fallu expliquer quel type de festival aurait cours? Est-ce que tu as plutôt trouvé en face de toi des gens rétifs ou des gens accompagnants ou des adjuvants même?
En fait, on a, alors au niveau des individus et des associations, on a eu beaucoup d'enthousiasme, c'est-à-dire qu'il a été très facile, la journée d'hier qu'on a eue, quand on a dit aux gens, voilà, on vous donne un espace, qu'est-ce que vous avez envie de nous proposer comme activité, qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble, de partager, qu'est-ce que vous aimez, etc. Ça a été très facile, les gens sont super créatifs, il y a eu vraiment beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de partager, parce qu'il y a vraiment cette idée de partir du plaisir, de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les autres. Donc ça, il n'y avait aucun souci. Après, pour les partenaires, alors en fait, on s'y est pris très tard pour organiser ce festival, parce qu'avec Dan, en fait, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, justement, quand moi j'essayais de regarder un petit peu toutes les associations qui existent. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on était très alignés, parce que Dan, en fait, a une association qui s'appelle Cuisine Lab, que peut-être il pourra t'expliquer après. Et puis, moi, je suis assez alignée avec ce qu'il fait, sauf que moi, je ne fais pas la cuisine, mais je le fais sur les autres activités, donc sport, culture, etc. Au niveau des partenaires, on a le bureau de l'intégration qui a tout de suite dit oui, sans hésitation. Et puis, il y a bien sûr l'Hospice Général. Et puis après, on a eu des organisations internationales comme IOM, la Mission du Canada, etc. qui ont réagi très très vite, et on les remercie parce que c'est vrai qu'on a fait une demande un peu last minute. Donc voilà.
Non, mais c'est bien de voir que finalement là, il y a d'une certaine manière quand même des personnes qui sont réactives à ça et qui sont dans la proposition, dans l'accompagnement, dans l'aide, dans l'entraide, et que voilà, donc ça existe quand même. Il y a
oui,
un terrain
et
quand même.
En fait, on nous a déjà demandé si on pouvait le refaire l'année prochaine, alors que c'est même pas encore terminé. Mais voilà, en s'y prenant plus tôt, et bon, c'est clair qu'on va s'y prendre plus tôt.
T'imagines bien que c'était une question qui allait arriver à un moment donné de l'entretien. Mais je voulais en venir à toi, Abtom. Alors, présente-toi déjà.
Ouais. Je m'appelle Abtom. Il faut savoir que moi, je suis un réfugié d'Érythrée. Ça fait 26 ans que je suis à Genève et
c'est très bien, ouais, c'était les mots qu'il fallait dire. Alors dis-moi, toi, comment est-ce que as-tu eu vent du Refugees Cultural Festival? Ouais. Tu l'as découvert aussi sur les réseaux sociaux ou...
Non, je ne l'ai pas découvert sur les réseaux sociaux. J'étais contacté par Sylvie et Dan il y a environ 9 semaines, c'est-à-dire 2 mois. Et ils m'ont appris en fait ce qu'ils allaient entreprendre. Et j'étais... enthousiasté par ce qu'ils allaient faire parce que ça me concernait directement étant donné que je suis réfugié et que je suis en permanence en lien avec des requérants d'asile, notamment des Érythréens, je suis en permanence en lien avec des réfugiés en fait.
Ouais. Alors justement, toi, quel est le constat que toi tu fais sur la société suisse et particulièrement la société genevoise? Est-ce que effectivement, comme ébauchait Dan, est-ce que c'est effectivement assez compliqué de sortir de sa zone de confort, tu trouves, à Genève? Est-ce que c'est assez difficile de rencontrer des gens, de trouver de la solidarité hors institution, je veux dire, et hors association, bien entendu?
En fait, en ce qui me concerne personnellement, je suis arrivé en Suisse très jeune. Je me suis très, très vite intégré dans la société. Et il faut savoir que avant, les choses n'étaient pas... Les choses étaient différentes, je dirais. D'après ce que je vois, il y a pas mal de choses qui ont changé au niveau réfugié c'est une question assez...
C'est une question complexe, je sais, tout à fait.
Je ne vais pas forcément débattre là-dessus.
Tout à fait.
Parce que je n'ai pas forcément toutes les connaissances ou les compétences pour élargir la discussion.
Ouais. C'était juste pour... l'idée, c'était d'avoir un instantané, toi, actuellement, comment est-ce que tu... C'est que tu trouvais ta place ici, mais effectivement, tu l'as dit en filigrane de ce que tu viens de dire, on sent que tu es dedans, quoi. Enfin, tu agis.
Ouais,
quel est ton rôle au sein du festival?
Ouais, mon rôle au sein du festival, c'est que premièrement, en fait, quand ils m'ont contacté et présenté ce festival, comme je l'ai dit avant, j'étais très enthousiaste de participer à ça. En ce moment, en fait, la plupart des requérants d'asile ou des réfugiés que je rencontre, ils ont énormément de mal à s'insérer dans la société d'une manière ou d'une autre, à participer à toutes les activités, que ce soit culturelles ou autres, dû à leur manque de pratique de français principalement, je pense. Et ils n'ont aucun moyen, en fait, d'être en phase avec la société, étant donné qu'ils sont vraiment isolés dans des espaces appelés maintenant foyer, mais ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais foyer personnellement. Et ils n'ont aucun moyen de vraiment entrer en phase avec la société et de s'intégrer et de s'impliquer en fait dans la vie active des foyers, de la ville de Genève en fait. Ouais. Et ce que m'a plu en fait, c'est que ce festival mettait en phase les deux populations genevoises, dites citoyens et requérants d'asile ou réfugiés, et qui peut permettre à ces deux populations d'être en phase, de faire connaissance pour évoluer et pour aller de l'avant ensemble.
Et effectivement, comme le disait Emmanuel, je ne sais pas si après tu aimerais reprendre la parole concernant ceci, mais on a observé, nous avec Libradio, on a beaucoup suivi et on continuera de suivre les mouvements de solidarité comme Solidarité TAT, comme Stop Bunker, Stop Renvoi, Perse Frontières en général, disons. Eh bien, on s'est aperçu que beaucoup de personnes que l'on avait rencontrées de la société civile à Genève ont évolué avec au gré des rencontres des personnes. C'est-à-dire que partie d'un constat d'une méconnaissance du phénomène, évidemment amplifiée par ce qu'ont pu dire les masses médias, avec cette peur, avec ces temps troubles qu'on traverse, on ne peut pas le nier, eh bien ces personnes-là, par erreur finalement, se sont trouvées à être, disons, dans un inconfort. et de ne pas aller vers l'autre. Et effectivement, je trouve que parmi la singularité du festival, c'est cette notion de plaisir qui s'accompagne de la rencontre, permet également à ces personnes qui d'ores et déjà décodent autrement et sont en train d'entrer en communication, eh bien, ça leur permet de comprendre qu'en face d'eux, elles ont des humains tels quels, et qu'effectivement, quand on voit des humains dans la douleur, on a envie de se solidariser naturellement. Alors, je ne sais pas, Sylvie, je pense que ça, on peut dire que c'est réellement une des singularités du festival. C'est cette notion de plaisir accolé à la notion d'exil. Ça, ouais. C'est une centralité du festival.
Il y a le plaisir et puis il y a aussi quelque chose qui m'a un peu choquée hier. J'ai eu une question de quelqu'un qui m'a dit « Mais où sont les réfugiés ?» Puis j'ai dit « Mais à ton avis, les réfugiés, ils ressemblent à quoi ?» Parce qu'on était entourés de réfugiés. Et puis réfugiés, bah, en fait, c'est juste, c'est juste un statut social. Mais le réfugié, ça peut être moi demain, ça peut être toi, ça peut... Et nous, c'était vraiment ce message-là qu'on voulait faire passer. On est tous des êtres humains. Et quand on enlève les étiquettes, et ben, les barrières, elles tombent et on se retrouve ensemble. Et on a eu notamment un groupe qui a fait une flash mob de danse. Ils étaient une trentaine et c'était vraiment magnifique. Enfin, moi, j'étais vraiment super émue de ce qu'ils ont construit ensemble. Et c'était vraiment, on a vraiment fait tomber les barrières. Quoi. Donc, c'était magnifique. Ouais.
Donc, pour ça, au moins, on peut dire que d'ores et déjà, le rôle est rempli et puis vous avez gagné à ce titre-là. Emmanuel, toi qui es quand même un peu public de ce festival, comment toi as-tu perçu ce qui s'y est passé, l'atmosphère, la température du public à l'intérieur du festival? Est-ce que les gens étaient contents, se sont prêtés aux activités, sont allés découvrir, étaient curieux? Ou est-ce qu'il y avait quand même une petite forme de réticence, de méfiance, je ne sais pas, des petits reliquats comme ça de désinformation, j'ai envie de dire?
Donc pour l'instant, ça vient de commencer, j'ai pas encore pu y aller, pour être très honnête.
D'accord.
Par contre, j'ai observé comment ce festival s'est mis en place, le programme, le rationnel derrière le festival, pourquoi est-ce qu'on le fait, qui a très bien été expliqué par Sylvie et par Dan. Et puis, je suis convaincu qu'il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse aussi parce que, paradoxalement, les réfugiés sont pas si visibles que ça, ou ils sont visibles à travers des prismes qui sont pas très intéressants, très simplificateurs, notamment du fait du rôle des médias, comme tu l'as mentionné. On entend qu'il y a une crise des migrants, que les migrants déferlent, que c'est les vannes ouvertes versus la forteresse. On est toujours dans des simplifications. Et puis, il y a un discours xénophobe qui a vraiment du poids en Suisse et à Genève aussi, même si, heureusement, l'UDC stagne et le MCG a perdu pas mal de sympathisants. Ce que j'aimerais relever, c'est qu'il y a un grand paradoxe. Donc, on est dans cette Genève internationale, la Genève qui... a vu naître le droit international humanitaire, le Genève de la Croix-Rouge, la Genève qui était le siège de la Cité des Nations, la Genève des grandes organisations internationales, des ONG, de la Convention de 51 sur les réfugiés. On est dans cette Genève, mais en même temps, à Genève même, donc qui se situe en Suisse, les étrangers ont très peu leur mot à dire. Donc les étrangers au niveau communal peuvent voter, mais ils ne peuvent pas être élus. Et au niveau cantonal, les étrangers, qui sont pourtant 40% de la population au niveau cantonal, hein, peut-être 60% au niveau de la ville de Genève, selon les dernières statistiques, et bien ces étrangers au niveau cantonal n'ont ni le droit de vote, ni le droit d'éligibilité. Donc on se retrouve dans une ville extrêmement internationale, mais participe au processus citoyen politique qu'une partie extrêmement restreinte de la population suisse, qui par ailleurs... n'est pas souvent exposé à la réalité du phénomène migratoire réfugié, puisque tous les bénévoles dont parlait, ou les militants dont parlait Sylvie, ou dont je parlais tout à l'heure, ne représentent pas l'extrême majorité de la population. Et donc cette population, elle doit avoir des occasions de faire des vraies rencontres avec les réfugiés. Bien sûr, des rencontres comme celle-là ne se substituent pas et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'action nécessaire, quotidienne, et des associations, et des œuvres d'entraide, et des syndicats, et des organismes de l'État comme l'Hospice Général, ou comme l'Agenda 21 ou le Bureau de l'Intégration. Par contre, des occasions comme ça permettent à... une certaine partie de la population de découvrir la réalité d'une existence qui est une existence à la fois peut-être différente, mais banale, comme l'a rappelé Sylvie. On a tous connu un réfugié, on a tous eu des migrants dans nos familles. Mais je pense qu'à Genève, du fait de ce contexte politique un peu particulier que j'ai rappelé et du retard qu'a Genève en matière de droit politique des étrangers, et à cause aussi du contexte de la force du populisme en Suisse, c'est très important que ces rencontres aient lieu et que ces populations soient mises en contact. Et puis je pense aussi que la Genève internationale des expatriés qui sont souvent en rotation, des ONG, des touristes, voyageurs, etc., se plaint aussi de la difficulté de rencontrer des vrais Suisses ou des Suisses qui seraient désireux de parler de leur propre culture, de leur propre tradition, de leur propre folklore. Beaucoup de communautés vivent finalement en vase clos. Alors ces vases clos, parfois, contribuent à l'intégration parce que le fait de connaître ses origines, de parler sa langue, d'évoluer dans son contexte culturel est un facteur positif d'intégration, mais aussi peut être un facteur, dans certaines circonstances, un petit peu aliénant, ou peut être un facteur qui complique l'interaction avec les autres publics, les autres communautés. Donc des occasions comme celle-là permettent d'ouvrir des portes, de faire des rencontres à partir d'éléments très concrets, comme par exemple la nourriture. Ça peut paraître banal, mais manger, c'est une des choses les plus importantes qu'on fait en tant qu'être humain, avec dormir et faire l'amour et travailler, si on a la chance d'avoir un travail rémunéré ou non rémunéré. Et puis, par rapport à la nourriture, par exemple, il y a tout un projet qui s'est mis en place et puis toute une conception, à mon avis, qui est intéressante, dont Dan pourrait, par exemple, vous parler.
Tout à fait. Alors, juste avant que Dan, tu nous en parles, parce qu'il me semble que toi, Sylvie, tu vas devoir partir. Alors, pour que tu interviennes une dernière fois avant de partir, est-ce que tu auras envie peut-être de nous dire quelques points saillants du programme à venir, et notamment, puisque le festival a cours jusqu'à mercredi, ici, aux Grottes, à Genève. Alors, y a-t-il des petits points saillants que tu aimerais citer et commenter ?
Oui, alors en fait, Dan vous expliquera le projet Cuisine Lab qu'il a monté, mais donc le 20 juin, la soirée est en collaboration avec donc son association Cuisine Lab, et il faut vraiment venir, vous pouvez acheter les billets en ligne. On a un grand buffet avec de la nourriture sri lankaise, afghane, érythréenne et syrienne. Donc on va aussi faire la fête, on aura un peu de musique, on aura des jeux, des choses un peu culturelles pour vraiment interagir et effectivement se retrouver autour de la nourriture. Donc ça se passe au chalet du Bois de la Bâtie mardi soir. Puis après, mercredi et jeudi, il y a aussi deux autres dîners organisés par des associations qui ont accepté de collaborer avec le festival. Donc voilà, comme disait Emmanuel, la nourriture, c'est sacré pour tout le monde. Et puis, c'est comme ça qu'on peut créer des liens très facilement.
C'est un voilà. Bon point de convergence. On rappelle le site du festival.
Alors, refugeeculturalfestival.ch.
Merci beaucoup, Sylvie.
Merci,
donc, tu es la cofondatrice de ce
merci
festival.
Merci de ton accueil.
Avec beaucoup de plaisir. Et puis, nous retrouvons un peu plus loin. Voilà, et nous allons continuer entre nous. Alors, avant qu'on en vienne justement à ton projet de Cuisine Lab, Dan, je voulais faire réagir Aptom concernant la place que justement les personnes en exil trouvent à Genève. Alors, est-ce que pour toi, typiquement ce genre d'événement, puisque tu t'es engagé en tant que bénévole,
ouais.
Est-ce que pour toi, typiquement, ça c'est une occasion de trouver, de continuer de trouver ta place au sein de la société suisse ? Est-ce que ça, penses-tu que c'est pertinent comme type d'événement pour que les gens voilà, puissent s'approcher, puissent prendre en main des pans de leur vie, puissent échanger avec des personnes et trouver justement un enracinement local.
Peut-être pas un enracinement local, mais je trouve que c'est un bon début déjà pour surtout pour les réfugiés débutants ou les requérants d'asile débutants, déjà
s'impliquer.
Ouais, exactement, de s'impliquer. Et de trouver des gens, de créer des liens, rien que de sortir de leur sphère pour aller rencontrer des gens. Je trouve que c'est déjà une bonne voie d'intégration. On se mêlant avec la population locale que je pense que, qu'on s'intègre dans un pays et qu'on crée des liens et qu'on est utile à la société dans laquelle on vit.
Ouais. Donc pour toi, et c'est également des espaces importants,
exactement,
essentiels. Et
c'est vraiment ouais, l'essentiel.
Ouais, d'accord, très bien. Je te remercie. Alors Dan, justement, dis-nous en plus, toi tu as ce projet de Cuisine Lab. Raconte-nous, d'où vient-il et qu'en est-il?
Le projet de Cuisine Lab, c'était commencé parce que j'ai assisté avec un projet dans Athens, comme ça s'appelle Options Food Lab. Ce projet, c'est avec les réfugiés dans Athens, avec la situation à Athens, avec beaucoup de réfugiés qui viennent venus à Athens très rapide.
D'accord.
Mes amis commencent un projet pour intégrer les réfugiés et offre une opportunité pour les réfugiés pour gagner un peu d'argent, parce que c'est très difficile maintenant dans Athens avec pas les ressources pour assister les gens. So, alors, après, j'ai fait ça avec Athens pour une année. Alors, j'ai commencé un peu de recherche ici à Genève, parce que mon appartement, mon vie, c'était d'ici. Alors, quand j'ai commencé à voir qu'est-ce que se passe d'ici, c'est devenu clair. Il y a un problème avec les connexions des gens, les récurrents ici, les réfugiés, les expats, le tout. Alors, la cuisine, c'est offre l'opportunité pour créer le lien des autres.
Fait.
Alors, dans l'histoire de l'humain, quand une nouvelle personne, un nouvel arrivant entre un nouvel espace, normalement, ramener quelque chose de culturel, c'est normalement de cuisine, l'épice, des choses comme ça.
Oui, oui, et puis effectivement, j'imagine que ça doit être très valorisant de donner à des personnes l'occasion de dire, moi j'ai quelque chose que je sais que je peux vous montrer de manière assez immédiate, et puis qu'on peut ensuite partager. Partager
exactement,
un peu de moi, un peu de ma culture, c'est qualifiant, c'est valorisant.
Oui, oui, exactement. Et en partager, c'est la cérémonie, le mot companion and company, c'est le mot latin companos. Companos, c'est avec pain. So, la base,
avec le pain.
La base, ouais, pour créer la connexion avec les autres,
c'est le partage
avec
du pain.
Partager le pain.
Très bien, ouais, absolument, absolument. Mais alors dis-moi, ça existe depuis quand, Cuisine Lab?
6 mois. Plus
donc, oui, donc c'est très très récent. Et c'est le premier événement comme ça duquel tu fais partie avec.
On a déjà fait 8 ou 10 dîners avec le réfugié afghan, le réfugié syrien, ouais, avec plein de personnes.
Ok. Et alors ça se passe comment? Il vous faut. Parce qu'on va se servir de la radio pour lancer un appel. Si certainement tu aimerais que des structures t'invitent, je suppose, pour y faire des événements. Alors. De quoi as-tu besoin quand tu crées un événement Cuisine Lab? Il faut qu'il y ait une cuisine professionnelle, il faut qu'il y ait un matériel minimum qui soit présent sur place?
Ça dépend. Normalement, la base, c'est offre l'espace créatif pour les gens qui veulent célébrer la culture. Alors, le dernier grand événement, c'était avec le Sri Lankan, le Tamoul. Il est décidé à pousser le partager à un nouvel niveau. Il a fait une cérémonie qu'on fait le puja. Il a fait la bénédiction pour tous les gens qui ont entré l'espace, qui a fait beaucoup de choses, de musique, de danse. Il est décidé de faire ça. Notre juste offre l'espace, assistance pour donne de l'énergie. Oh, s'il te plaît, offre toutes les choses que tu veux partager avec nous. Et la situation a augmenté chaque fois. C'est incroyable.
Génial. Donc, en fait, beaucoup de gens viennent vers vous. Alors, comment est-ce que les gens peuvent justement te solliciter, te venir vers toi? Est-ce qu'ils te font un mail, un message? Il y a un site internet?
Yeah, juste ça.
Ok.
Juste connecter avec un email. Et voilà. En rencontre. Discuter, qu'est-ce que tu veux faire. Et la base, c'est la philosophie et c'est simple. C'est pour partager, tu dois faire ouvert. Toutes les choses, c'est transparent. Par exemple, on utilise un système comme on s'appelle cooperative budgeting. C'est le budget coopératif.
Uh-huh.
So, quand gagner l'argent, tous les gens voient l'argent, qui donne l'argent pour le matériel, qu'est-ce que le profit, comment on distribue le profit ensemble. C'est tout transparent pour le stakeholders qui viennent nous. C'est possible pour voir comment l'argent est payé pour l'événement, comment on dépense l'argent aussi. C'est un peu changer le mode pour centraliser la puissance. C'est plus ouais. important, c'est vraiment important pour partager tous, inclus ouais. ouais. la puissance ouais. qu'on comme un collectif, ensemble. On partageait tous, oh, on collectait l'énergie et c'est possible de changer le monde. C'est juste ça.
Dis-moi, est-ce qu'il y a eu peut-être un peu moins d'activité ce mois de Ramadan ou pas? Ou est-ce que vous avez joué avec ça et puis vous allez peut-être participer à la rupture du jeûne
oui.
L'Aïd el-Fitr par exemple, à ce moment-là. Il y a quelque chose de prévu en prévision de la fin du Ramadan? On n'y est pas encore, mais...
Oui, alors... Le mardi soirée, c'est une grande, grande fête de soirée avec beaucoup de choses super. On a déjà, se voit, c'est important pour offrir la cuisine pour le casse de jeûne, pour le ramadan, l'iftar. Oui. C'est le nom de la casse de jeûne pour le musulman. Alors, c'est sûr, on offre la cuisine jusqu'à 11h30 parce qu'il y a des gens qui cassent le jeûne de Ramadan à 9h30. C'est important pour ouais. inclure tous les gens. Alors, le jeudi soirée, le 22, il y a un dîner spécialisé avec trois associations, RMCA, c'est une association qui a travaillé avec les gens réfugiés qui parlent arabe, Food Hack and Cuisine Lab. On fait un dîner très, très progressif sur le thème de l'iftar. On a partagé l'explication de Ramadan, on a partagé le meal traditionnel, le repas traditionnel de l'iftar. On fait toutes les choses exactement comme l'iftar, mais dans une situation œcuménique, transparente et ouverte.
Ouais, c'est génial parce que c'est vrai comme Emmanuel nous l'a dit tout à l'heure et comme j'imagine Abtom que toi aussi. D'ailleurs, après on terminera l'interview, je vous demanderai quel est votre plat favori, bien sûr. Mais c'est vrai que la cuisine, c'est quelque chose de central. On a tous besoin de manger. Et puis, c'est vrai que ça sert également de rituel, de cérémonial. Là, on parle de la Delphis, de la rupture du Ramadan, mais il y a effectivement aussi dans le judaïsme des repas spéciaux. Encore récemment, il y a eu la Pessah, la Pâque juive, avec le Seder de Pessah. Enfin, il y a beaucoup de choses, j'imagine, sur lesquelles vous pouvez, à votre association, jouer pour rendre ces repas tout à fait singuliers. Y a-t-il un site internet consacré à Cuisine Lab?
Oui,
ou une adresse mail?
Well, maintenant, c'est cuisinelab.ch.
Simple comme tout.
Il y a un website on a construit maintenant.
Très bien.
C'est un groupe Facebook.
Donc il y a une page Facebook, on met Cuisine Lab, yeah. On tombe sur une... d'accord, et là il y a une actualité, donc des prochaines dates.
La prochaine date, c'est le ventre, voilà. Le ventre, le 21, c'est une collaboration avec le LGBT ICIL, c'est un groupe qui travaille avec les migrants et les raconte ICIL et les réfugiés qui sont LGBT. Mm-hmm. Et le 22, c'est le Denis Iftar.
Très bien. Et toutes ces informations, on les retrouve sur la page Facebook et sur le site.
Oui, le site. The refugeeculturalfester.ch, il y a toutes les informations là.
D'accord, très bien. Je te remercie beaucoup, Dan. Alors, j'aimerais faire un petit tour de table pour savoir quels sont justement vos repas préférés, vos plats préférés. Et puis ensuite, justement, à ce moment-là, vous pouvez également ajouter, parce qu'on arrive au bout de l'entretien, mais vous pouvez ajouter évidemment des informations que vous auriez envie d'ajouter et auxquels je ne serais pas arrivé. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être. Abtom, veux-tu commencer, toi? Quel est ton
ouais,
repas préféré?
Il faut savoir que je suis d'origine érythréen. Mm-hmm. Et ce n'est pas forcément la cuisine érythréenne que je préfère le plus. Moi, vous allez peut-être un peu être étonné, mais j'adore la fondue.
Bah voilà. Non, mais c'est ça qui est drôle dans la cuisine. Bah ouais. Moi, je suis italien, bof.
J'adore le fromage.
La fondue, c'est bien. Voilà. Alors, t'as découvert quand, toi, la fondue? Bon, ça fait longtemps que t'es là, ça fait 26
ouais,
ans,
ça
t'as
fait
dit,
26
hein.
ans ouais. que je suis là. Ouais. Ouais, j'ai découvert la fondue à l'époque où je vivais dans un foyer pour des mineurs, au foyer de Grand Saconnet, qui se trouve au Grand Saconnet, qui fait partie de la fondation officielle de la jeunesse,
oui.
La FOJ. Oui. La FOJ. Et du coup, bah, j'ai découvert là-bas.
Mais dans quelles conditions? C'est un animateur qui était dans les parages qui a dit tiens, si on faisait une fondue ou comment
non,
ça s'est passé?
Mais non, pas comme ça. Non. C'est qu'on mangeait régulièrement des plats typiques suisses. lorsqu'on partait dans des camps de ski en Valais ou même dans le foyer.
Excellent. J'ai une anecdote. J'ai voulu montrer la fondue à ma famille en Italie. La première fois, évidemment, on a cuit le fromage. Et puis, ils voulaient le prendre à la louche et puis le mettre dans leurs assiettes. Ouais, c'est des trucs marrants. Ouais. Justement, est-ce que toi, tu as une anecdote comme ça, de cet ordre-là, concernant un repas que tu as découvert? Peut-être toi-même, peut-être que par exemple, tu as un plat éthiopien que tu as découvert une fois et puis qui t'a déplu, ou je sais pas, une anecdote marrante.
Ouais, bah oui, il y a un plat, et enfin, c'est pas un plat, c'est une sorte de c'est un plat qui est préparé dans la région un peu du sud de l'Éthiopie, que j'aime pas du tout.
Ça s'appelle mais comment, tu sais?
Ça s'appelle le
ça va peut-être revenir, c'est pas grave. T'as pas aimé à cause de quoi? Parce que
ça avait vraiment un goût fort, une odeur très très forte. Et comme quoi, bah oui.
Ok, bon bah voilà, je te remercie. Si jamais le nom te revient, tu nous le dis.
Oui.
Dan, et toi, est-ce que tu as une cuisine, un plat préféré ou une cuisine préférée?
Je préfère la cuisine bonne. C'est pas la cuisine mal, c'est juste quelque chose bon ou pas bon. C'est comme tout. Pour alors, de mardi, de vente, c'est sûr, la cuisine, c'est fantastique. Fantastique. So, oui. Bien.
Mais il y a quand même, hein, tu sais, typiquement, il peut y avoir un gâteau qui te rappelle une grand-maman ou une odeur qui te rappelle, je sais pas, la famille, le confort, la maison. Est-ce qu'il y a comme ça une anecdote qui te viendrait à l'esprit en disant ah, mais oui, moi, effectivement, à chaque fois que je sens cette odeur-là, je me sens bien parce que c'est l'odeur. Voilà, c'est le gâteau que me préparait ma grand-mère quand j'étais petit.
Ouais, c'est quoi le plat qui cuisine le mieux lui-même?
Ah, ou alors voilà.
Peut-être qu'il n'est pas assez objectif.
Tu fais toi-même la cuisine.
Je peux pas dire, mais...
un bénéfice du projet, c'est que j'ai appris beaucoup de nouvelles assiettes tout le temps.
Super.
Alors, pour l'activité le 17, il y a 3 ateliers de cuisine. Mm-hmm. Et alors... il y a complète un jour de Sri Lanka, atelier cuisine de Sri Lankan, atelier cuisine de Momo de Tepet et de Syrian aussi. Et c'était super. So, alors, dans l'avenir, je voudrais offrir plus d'ateliers de cuisine aussi pour les gens. So.
Très bien, le message est passé en tout cas. Emmanuel, à toi pour conclure.
Alors, moi j'aime beaucoup le houmous qu'on mange dans tout le Moyen-Orient, mais qu'on trouve aussi à Genève.
Miam miam.
Avec un peu de cumin ou de zaatar.
D'accord, avec des petites options quand même.
Ouais.
Hein. Ah, oui. Zaatar, parfait. Hein,
voilà.
Ce petit mélange là.
Voilà. Alors, par rapport à ce projet et à ma conclusion.
Allez.
Pardonne-moi de faire un peu de militance pour terminer.
Ah non, mais tu es là pour ça.
Récemment, grâce notamment au lobbying de la ville de Genève et du département de la cohésion sociale et de la jeunesse, on a obtenu que 60 villes de Suisse fassent une déclaration, la déclaration ville-refuge. Et puis... c'est l'initiative pour une politique sociale de l'Union des villes suisses, donc un projet au sein de l'Union des villes suisses qui a fait cette déclaration. Si on reprend les points principaux, c'est de remplacer l'admission provisoire par un statut qui soit plus digne et qui mette plus de réfugiés dans une situation de rester et d'avoir des perspectives concrètes à court terme, à moyen terme et à long terme en Suisse. De mieux coordonner les processus d'intégration entre les différentes villes, parce qu'on sait que l'avenir des réfugiés et des migrants en général, c'est dans les villes qui va se jouer, pas dans les campagnes. Et puis aussi avoir un financement plus généreux pour l'accueil des réfugiés. Je pense que c'est quelques milliers de réfugiés qu'on accueille chaque année en Suisse, et encore les chiffres sont sujets à caution. On a dit qu'on allait accueillir des réfugiés syriens, finalement on en a accueilli moins que prévu, la même chose avec les Érythréens, la même chose avec les Afghans. Moi, il me semble que c'est vraiment important de rappeler que en Europe, il n'y a que 1,5 million de réfugiés pour une population de 500 millions. Et puis qu'on est un pays très riche. Bien sûr, il y a des problèmes de chômage que je néglige pas. Il y a beaucoup de pauvreté. Pas tout le monde peut accueillir un réfugié chez lui. C'est un sujet extrêmement complexe. On doit travailler ensemble pour trouver des solutions concrètes, adéquates et des nouvelles solutions. Mais un projet comme celui-là, comme je disais tout à l'heure, il offre au moins un espace aussi pour démystifier, pas rester tout le temps dans les considérations politiques et les oppositions idéologiques ou dans les grands discours, mais simplement dans la réalité de la vie et de la rencontre, comme l'a bien expliqué Dan, comme l'a bien expliqué Aptop. Et donc j'espère que ce projet il va pouvoir continuer et puis que il sera aussi toujours aussi ambitieux et varié. Je vois que le 21 juin il y a un dîner organisé par Asile LGBT. Il y a toute une enquête qui a été menée récemment, notamment avec le soutien de la ville de Genève et du canton, sur la situation des réfugiés LGBT, le type de discrimination et de difficultés spécifiques qu'elle rencontre, et la façon dont on pourrait améliorer les programmes d'accueil et d'aide à l'insertion socio-professionnelle de ces populations. Ça fait aussi partie du programme, et je pense que c'est une très bonne chose.
Alors, clairement, on lui souhaite plein de succès à ce festival. D'ailleurs, il me semble que c'est déjà bien parti, et on le rappelle, c'est jusqu'au 22 juin, ici à Genève. Tout le programme se trouve sur le site www.refugeesculturalfestival.ch. Une adresse de contact, c'est info@refugeesculturalfestival.ch, avec effectivement le 20 juin, la fête de la Journée mondiale des réfugiés, Festival Cuisine et Culture, de 19h à minuit au Bois de la Bâtie, chemin de la Bâtie 20, au Petit Lancy, avec des spécialités internationales de Syrie, d'Afghanistan, du Sri Lanka, d'Érythrée et plus encore. Ça, c'est pour le prochain événement. Et puis ensuite, jusqu'au 22 juin, la suite de... Oui, alors voilà, effectivement, les activités artistiques et culturelles interactives et gratuites. C'est important de le préciser.
Dan. Gratuite, quoi ?
Oui, je disais là. Les activités gratuites, sauf les ateliers de cuisine.
C'est pour le 17. Il y a de 20, ouais. Il y a 25 francs pour l'entrée. Oui. On vend le billet. Avec le 25, tu peux manger tout. Il y a plus que 25 assiettes, tu peux goûter. Et la cuisine, c'est vraiment super. Pour moi, je mange le meilleur avec le projet de Cuisine Lab dans Genève. So.
Ok.
Il prêche pour sa paroisse, on attend de...
Ouais, mais après, il faut les résultats, hein, parce qu'on on va venir goûter.
On attend de goûter, exactement.
C'est clair. Emmanuel, je te remercie beaucoup. Dan, merci beaucoup, merci. Pour Cuisine Lab, Aptom et Sylvie qui n'est plus là, merci aussi à vous.
Ouais, merci.
Vous êtes, alors, il y a les co-organisateurs et puis parmi les personnes qui y travaillent et puis un témoin, un témoin et un client du festival, Refugees Cultural Festival, Oura pour la diversité. Donc on le rappelle, du 10 au 22 juin. À Genève. Merci à vous tous et bon courage pour la suite.
Merci.